Étienne Normandin, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Hey, merci Sam, l'invitation.
Étienne, comme avec tous mes invités, je te laisserai le champ libre à te présenter.
OK. Ben, en deux mots, je dirais que je suis entomologiste et entrepreneur. Donc, je suis entomologiste et coordonnateur des collections d'insectes à l'Université de Montréal. C'est un emploi que j'ai depuis 2015. Et puis, je gère la collection des projets d'étudiants. Puis, on fait toutes sortes de recherches, entre autres sur la biodiversité des insectes en milieu urbain, des espèces invasives, puis toutes sortes de beaux projets aussi, parfois sur les insectes comestibles. Je suis aussi directeur de production chez Trisic. C'est une compagnie qui produit des ténébrions meuniers pour la consommation humaine dans un concept d'économie circulaire. J'ai aussi une compagnie qui s'appelle Anima Nature. On fait des présentations puis des projets pour les enfants dans les écoles et les institutions. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, je suis impliqué dans la communauté pas mal. Tous les gens qui sont intéressés à devenir entomologiste amateur ou à s'impliquer dans l'entomologie, je suis impliqué dans les organismes au Québec, à ce niveau-là. Donc, voilà.
Donc, entomologiste, le monde des insectes, puis bien sûr, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, parce que moi, je suis coordonnateur de l'association pour la commercialisation des PFNL, et quand on pense PFNL, on pense comestibles sauvages, en particulier les champignons et les plantes, les petits fruits, les arbres à noix, mais on pense pas aux insectes, et
Non.
je pense que ça a un potentiel de ce qu'on appelle l'entomophagie. Est-ce que c'est une possibilité, la cueillette sauvage d'insectes comestibles dans les forêts du Québec?
Oui, c'est possible. Puis, ben, tu sais, l'entomophagie, entomo, insecte, phagie, manger, ça, c'est l'action de manger des insectes. Puis, c'est quelque chose qui est vraiment fascinant parce qu'on le fait depuis très longtemps. Nos ancêtres, là, on parle dans la Mésopotamie, là, c'est là que les premiers balbutiements de l'entomophagie ont commencé, quand finalement les insectes étaient des compléments à notre diète alimentaire. Et après ça, ça a commencé à évoluer. Dans Mésopotamie, ils ont commencé à faire de la culture, ils ont commencé à la sédentarisation, ils ont commencé la culture des plantes en général. Et puis, les insectes sont tranquillement devenus en Asie, encore aujourd'hui, un aliment qui est très bon à manger, qui fait partie de la diète, du régime alimentaire, et plus en Occident, où finalement, là où la culture des plantes est devenue plus importante, où il y a parfois des problèmes dans certaines cultures, les insectes sont devenus des pestes. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte à quel point ils sont à la fois importants et à quel point ils peuvent revenir dans notre assiette. Et ce qui est le fun avec les insectes comestibles sauvages en ce moment, c'est que tout est à découvrir, tout est à explorer. Il y a des milliers de textures différentes, il y a des milliers de goûts différents à découvrir encore avec les insectes comestibles sauvages. Donc, c'est vraiment là, on ouvre les portes d'un garde-manger qui était encore aujourd'hui presque inconnu.
Donc, c'est blocage culturel, bien sûr, tu viens d'en parler, qui est à réouvrir. Admettons, si tu pouvais nous décrire quelques insectes comestibles qu'on peut trouver au Québec, sans rentrer dans les technicalités là, de la taxonomie, de à quelle espèce ils font partie. Juste, tu pouvais nous en présenter quelques-uns et quelle est l'expérience en bouche à avoir?
Ouais. Ben écoute, je dirais probablement les insectes québécois, et je te dirais probablement en général dans le monde, ceux qu'on peut retrouver en fait en très grande abondance et qui sont très bons au goût, ce serait dans le groupe des sauterelles et grillons et criquets. OK? Donc, les grillons sont élevés à grande échelle là, maintenant, industriellement, mais il y a plein, plein, plein d'espèces sauvages. Donc, ça, c'est des espèces qu'on peut retrouver dans les clairières. Donc, il s'agit d'avoir une belle clairière avec des longues graminées, avec bien espacées, avec des belles plantes à fleurs. Et puis, c'est là qu'on trouve souvent des très grandes populations de criquets, sauterelles et grillons. Tout ensemble, les clairières québécoises et nord-américaines représentent des très bons habitats pour les criquets et tout ce groupe-là. Même, tu sais, dans les prairies de l'Ouest, canadien. Les criquets avant, malheureusement, il y a eu quelques espèces qui sont maintenant aujourd'hui disparues, mais il y avait des criquets qu'ils appelaient migrateurs, comme en Afrique. Et puis, c'était carrément une plaie pour les cultures. Tu sais, les prairies, c'est principalement des longues graminées. Hein? Donc, il y avait des grandes populations de criquets et les Amérindiens en mangeaient, en fait, de ces criquets-là. Il y a même ils ont retrouvé finalement un peu le savoir culturel des Amérindiens, un peu plus du sud des États-Unis, avec qui on partage un peu les prairies. Là. Et puis, ils racontaient le comportement carrément de... Ils se mettaient en rond, ils faisaient un trou au milieu et puis ils faisaient une battue pour rassembler tous les criquets et les grillons dans un pit, dans un trou. Puis là, il y avait quelqu'un qui ramassait à la fin. Fait que je te dirais, un premier groupe, là, ça serait ce groupe-là, les sauterelles, grillons et criquets. Sinon, on peut trouver quand même beaucoup de scarabées aussi. Donc, aujourd'hui, ben, on a quelques espèces de scarabées, dont le scarabée japonais, qu'on trouve en très grande quantité. Ça, peut-être qu'on va en parler tantôt, mais c'est très facile d'en attraper. Là, la texture en bouche est différente à ce moment-là. Parce qu'attraper des scarabées adultes, un insecte adulte est très chitineux. Hein? C'est comme manger un homard sans enlever la carapace. Parce que l'insecte, on mange tout. On ne va pas, avec une petite pince, enlever juste le bout de l'abdomen. On va manger en entier. Donc, ça prend des bonnes sauces. Ça prend des bons compléments pour les préparer. Sinon, il y a aussi toute une panoplie d'insectes aquatiques qu'on peut manger. Puis au Québec, on est chanceux. On est probablement une des régions dans le monde où il y a plus de lacs, de plans d'eau douce. Et donc, il y a une panoplie d'insectes aquatiques qu'on peut manger, dont, par exemple, les larves de libellules. Les gens, souvent, connaissent très bien les libellules. On les voit voler. Ils chassent, d'ailleurs, ils sont très utiles. Ils chassent des moucherons, des mouches noires, des moustiques. Mais avant de devenir une libellule, ils sont dans l'eau, à l'état larvaire. Et puis, ils mangent toutes sortes d'autres insectes aquatiques qui vivent dans l'eau. Et eux, ils ont un très bon goût aussi. Puis, la texture aussi va être différente. Donc, c'est pour donner une petite idée de trois groupes qu'on peut trouver assez facilement au Québec et qui ont à la fois tous des goûts différents et des textures différentes.
Puis, est-ce que il y a peut-être un danger à la consommation des insectes? Puis, premièrement, est-ce qu'il y en a des toxiques? Est-ce que je peux prendre n'importe quel insecte puis me le mettre dans la bouche pour essayer? Et ensuite, puis ça relie beaucoup le monde des champignons parce que, dis-moi là si je me trompe, mais en tout cas, dans le monde des champignons, il faut les cuire parce qu'il y a une paroi cellulaire qu'on appelle la chitine, qui fait partie des glucides, qui est quelque chose qui est indigeste, puis qu'on doit briser par la chaleur. Et je sais que la chitine fait partie aussi de la carapace de beaucoup d'insectes, de mollusques, etc. Premièrement, est-ce qu'il y en a des toxiques et est-ce qu'ils sont indigestes sans les préparer par la cuisson, par exemple?
Oui, c'est une bonne question. Puis ça devrait toujours être l'une des. En fait, c'est la première chose qu'on dit, que je dis dans mes conférences sur les ateliers là, sauvages, là, donc pratiques sur le terrain. Il faut toujours cuire les insectes. Donc, faut toujours. On les fait cuire comme on veut. On peut les faire cuire à la vapeur, on peut les faire cuire dans une poêle, donc dans du gras, dans du beurre, dans de l'huile, ou on peut les faire bouillir. Le minimum là, qu'on conseille, c'est 2 à 3 minutes. Donc, et ça, c'est pour la simple bonne raison qu'on ne mange pas des insectes crus en général, comme on ne va pas voir un poulet qui court dehors, puis le prendre, l'égorger, puis commencer à manger sa chair crue. Pour la même raison, les poulets sont porteurs de certaines bactéries. Les insectes aussi sont porteurs de certaines bactéries. On peut penser à la salmonelle, on peut penser à toutes sortes d'autres bactéries, E. coli, qui, si ce n'est pas transformé, si ce n'est pas cuit à haute température, passé 100 degrés Celsius, on est à risque d'avoir certaines problématiques qui peuvent être assez difficiles. Et là, est-ce qu'il y en a des toxiques? La majorité des insectes ne sont pas toxiques. La majorité. Donc, déjà là, on s'enlève vraiment beaucoup de restrictions par rapport au choix des insectes. Normalement, les insectes avec lesquels il faut faire le plus attention, c'est très facile, c'est des insectes qui vont arborer des couleurs très contrastantes. On l'appelle ça l'aposématisme. Donc, quand on voit un insecte qui est rouge et noir, là, vous avez un bon indice qu'il est peut-être toxique. Donc, ça veut dire qu'il va séquestrer des toxines, mais des toxines qui viennent d'une plante. C'est assez rare que des insectes vont être capables d'emmagasiner des toxines qu'ils ont générées eux-mêmes. Et puis, en général, si c'est le cas, le fait de les cuire va dénaturer la grande majorité de ces toxines-là. Donc, déjà là, on amenuise encore plus les risques de toxicité. Mais en général, les insectes qui sont très contrastants en couleur, on va les éviter. Et donc, la majorité, je te dirais 90%, même 95% des espèces d'insectes sont comestibles.
Fait que les insectes toxiques le sont à cause des plantes qu'ils consomment, un peu comme le...
En général, oui.
Comme le monarque et l'asclépiade, parce qu'ils...
Très bon exemple.
Oui.
Tu vois, l'asclépiade, on le sait, c'est une plante qu'on trouve dans les champs. Et puis, si quelqu'un a déjà essayé, on tire une feuille. Quand on est enfant, c'est une des premières choses qu'on fait. On tire une feuille, on dit « Ah, il y a du lait! » On tire une espèce de liquide laiteux. Ce liquide-là est rempli de certaines toxines. Puis, l'asclépiade a toute une guilde d'insectes qui la mangent. On a la punaise de l'asclépiade, on a le charançon de l'asclépiade, on a le monarque, on a le longicorne de l'asclépiade. Et puis, c'est drôle, ils sont tous ou presque orange et noir en coloration. Donc, c'est facile à ce niveau-là.
OK. Admettons, là, je suis motivé à aller cueillir des insectes en forêt. Okay. Premièrement, si tu avais quelques trucs pour, bon, te parler de la famille des sauterelles, dans quel environnement on va les trouver, peut-être plus dans les champs. Disons en forêt, là, c'est quoi que je dois regarder pour essayer d'en trouver des insectes comestibles?
Où regarder pour en trouver? Je te dirais, c'est spécial, on pourrait retourner la question puis se dire où faut regarder pour trouver des plantes comestibles. Et puis là, toi, Sam, tu aurais probablement la réponse, c'est ça dépend, en fait. Ça va dépendre de l'habitat, ça va dépendre de la présence de l'espèce. Si on va à Chicoutimi puis on cherche, par exemple, des chenilles de grands porte-queues, ben, on n'en trouvera pas. La limite nordique, c'est Montréal. Donc, ça dépend vraiment de l'endroit, de l'habitat. Et puis, même si l'espèce est présente, ça ne veut pas dire que les populations sont assez grandes pour faire de la collecte durable. Parce que ça, c'est assez important. Parce que si on commence à encourager les gens aussi à faire de la collecte, il va falloir commencer à la faire, et dès le début, avant qu'il y ait des abus, il va falloir commencer à la faire de manière durable, tout de suite. Donc, il y a toutes sortes de techniques qui sont, d'ailleurs pour les PFNL aussi, toutes sortes de méthodes qu'on peut utiliser justement pour collecter d'année en année dans un endroit précis un nombre X qui va revenir à toutes les années. Donc, prélever finalement une quantité d'insectes qui ne va pas amenuiser la population assez pour créer un effet d'entonnoir, okay? Pour finalement faire descendre la population jusqu'à un endroit, un point où elle n'est plus capable de se relever. Parce que les insectes, oui, ils sont capables de se reproduire de manière fulgurante parfois. C'est vraiment impressionnant. C'est pour ça que la réglementation est presque inexistante parfois pour les insectes. Mais si on veut vraiment pouvoir récolter dans un endroit précis de manière durable, bien, il va falloir établir ces chiffres-là. Puis d'ailleurs, ça, c'est toutes des choses qui restent à faire pour la collecte durable d'insectes. Donc, je te dirais, quels endroits, on va dire... Ça va dépendre de l'insecte qui est visé. Donc, si on parle, par exemple, de grillons, on souterrait des criquets, on va viser des clairières. On visera pas un boisé qui est à l'ombre. Sa nourriture, qui est des graminées, principalement, va pas se retrouver là. Si, par exemple, on vise des cloportes, tout le monde connaît les cloportes, ou en anglais, les woodlouse, ils mangent du bois en décomposition qui est parfois infesté de champignons. Donc, on pourrait penser à des boisés dans le sud du Québec, où on retrouve beaucoup de bois au sol. Et si ce bois-là il est pas souvent bougé ou s'il n'est pas souvent perturbé, ben, on va retrouver des bonnes colonies de ces cloportes-là, qui est d'ailleurs un crustacé, donc qui goûte un peu la crevette en bouche. Donc, à ce moment-là, ben, on peut même faire des aménagements pour augmenter les populations de ces insectes-là choisis.
C'est un peu comme la chasse... aux mammifères ou à d'autres animaux, il y a deux grandes stratégies. T'sais. Soit partir à la chasse, à la recherche d'individus, soit mettre des trappes et inviter l'animal à converger vers un endroit particulier. Puis quand on pense à la chasse aux insectes, ben, ça a l'air un peu la galère, là, un peu difficile là, d'aller avec un filet puis essayer de pogner tel ou tel ou tel. Est-ce qu'il n'y a pas des pièges ou des dispositifs ou des trappes qui nous permettent de le poser puis de revenir le lendemain puis il y a plein d'insectes? Et aussi, mon autre question, c'est est-ce qu'on pourrait pas aménager des forêts pour ou des écosystèmes en particulier pour encourager les insectes comestibles pour que ça soit plus facile d'en faire la récolte et que ça touche pas non plus les populations de manière non durable?
Ouais. Ben, je te dirais, il y a plusieurs exemples hein, de trappes qu'on peut faire. Si on prend un exemple très usuel, t'sais, pour chasser les insectes, pour déterminer leur diversité un petit peu, on utilise les pièges lumineux. D'ailleurs, en Afrique, ils utilisent les pièges lumineux, ils y mettent des grosses mercures qui blastent complètement à des même kilomètres parce que c'est assez plat. Pas beaucoup d'arbres aussi. Il y a des arbres qui sont relativement petits. Et les insectes arrivent carrément sur... nous, normalement, en tant que biologistes, on met un drap en tissu. Là-bas, ils mettent la lumière, mais ils mettent des tôles de métal. Donc, les insectes arrivent, se frappent sur les tôles de métal. Et c'est comme ça que les enfants, d'ailleurs, c'est les enfants qui sont en charge de ça, souvent. Et ça va taper, ils vont tomber dans des récolteurs. Et là, les enfants les trient, les insectes, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Il y a des sauterelles et des criquets des fois, mais il y a toutes sortes de choses. Donc ça, oui, il y a des trappes pour le faire. Puis même, ce qui était le fun, c'est l'année passée, j'ai testé justement des trappes, mais pas lumineuses, là. Ben, semi, si on veut, parce que c'était ce qu'on appelle en anglais des pitfall traps. Fait que c'est des pièges fausses. Donc, c'est un trou qu'on fait dans la terre. Et puis, normalement, on va mettre un petit entonnoir et les insectes, quand ils vont marcher sur le sol, ils vont tomber là-dedans. Et puis, ici, on met pas de liquide de conservation, ben, ils vont juste rester là et on va pouvoir revenir les collecter. Et ce que j'ai ajouté pour collecter dans un champ, dans une clairière, c'est ça que je voulais faire, j'ai ajouté des petites lumières UV. Donc, les UV qui attirent les insectes en général. Donc là, ça a été un mix, un hybride entre les pièges fausses et le piège lumineux. Et puis, ça a été surprenamment très efficace. Donc, dans un champ, on pourrait avoir une terre de plusieurs hectares. Et si on a un champ qui est en bonne santé, avec des bonnes populations de grillons et de criquets, on pourrait mettre ce genre de piège fausse-là avec des petites lumières. Et puis, les grillons vont venir la nuit, parce qu'ils sont nocturnes, vont venir la nuit dans ces trappes-là et on pourrait collecter de manière hebdomadaire des grillons et puis les ajouter à notre diète. Donc, carrément, ça peut tout à fait. Puis, les aménagements, ça, c'est vraiment excitant puis c'est vraiment intéressant parce que presque tout est à faire avec ça, les aménagements. On parle souvent de permaculture et puis d'aménager la forêt pour faire des forêts nourricières, pour vraiment s'adapter aux environnements que les plantes puissent produire de manière pérenne et dans le temps, durablement. On peut faire la même chose avec les insectes. Donc, carrément, aménager des clairières, aménager des sous-bois, laisser le bois là. Et puis, tu sais quoi? C'est à peu près les mêmes aménagements qu'on va faire pour les champignons, pour les plantes en général. Donc, tout est dans tout. Ça va être des aménagements assez similaires. Et puis, on peut penser à, justement, laisser du bois au sol pour avoir des bonnes populations de cloportes. On peut penser à... je sais qu'ils font ça en Thaïlande. C'est qu'il y a des espèces de... Bon, malheureusement, on n'a pas cette espèce-là au Québec, mais ils ont des grosses fourmilières arboricoles qui se retrouvent dans certaines espèces d'arbres. Et puis, on les appelle les fourmis tisserandes. C'est le fun parce qu'ils vont prendre des larves et puis ils vont coller les feuilles ensemble avec de la soie. La larve tisse la soie et l'ouvrière fourmi prend la larve et lie les deux feuilles ensemble pour tisser un espèce de gros cocon qui forme la fourmilière. Et puis ça, c'est vraiment le nec plus ultra de l'entomophagie en Asie et surtout en Thaïlande. C'est ce couvain, les larves de ces fourmis-là. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent avec des grosses tiges de bambou avec, au bout, un panier récolteur. Ils vont aller shaker, bouger, vibrer le nid et tout le couvain va tomber dedans. Et puis, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'avec le temps, plus ils récoltaient le couvain, plus les fourmilières allaient mal. Plus, finalement, les fourmilières s'autodétruisaient, mais ils n'avaient plus assez d'ouvrières pour faire la prochaine génération parce qu'ils étaient trop récoltés. Donc, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est qu'ils ont commencé à organiser des dépôts de nourriture à la base de ces arbres-là. De la nourriture que les fourmis, que ces fourmis-là aiment bien. Et donc, ça facilitait, ça donnait un certain boost à ces colonies-là. Donc, ils pouvaient faire une collecte durable bien meilleure, puis beaucoup plus en lien avec la santé de la fourmilière que s'ils ne le faisaient pas. Donc, on peut penser au même concept, aux mêmes aménagements avec les insectes du Québec. Mais tout est à faire encore. Donc, il faut choisir les espèces. On pourrait penser à faire des tranchées, mettre de l'eau, à carrément mettre des quenouilles pour encourager les libellules à venir, à ensemencer certains étangs avec des larves pour comme faire une population de proies pour les larves de libellules, par exemple. On peut penser à plein d'idées. Mm-hmm. Comme celle-là, planter des zones pour récolter les pucerons la Niger qui font du liquide sucré. Toutes sortes de choses sont possibles.
Mm-hmm. Tu sais, ça me fait penser à ce concept d'espèce indicatrice, tu sais, que s'il y a une diversité d'insectes dans un écosystème ou dans un aménagement, c'est la preuve de sa richesse et de cette biodiversité plus grande. Tu sais, ça peut être aménagé pour l'insecte, c'est aménagé pour toute
pour le reste.
Pour tout l'écosystème, exactement. Puis, par rapport à nos insectes québécois, là, nos fameux ennemis là, aux humains, là, que sont les moustiques, les mouches noires, les frappadores, me semble que c'est une
belle... On peut-tu les manger?
C'est une belle vengeance. Et je sais que j'ai vu des images dans les grands lacs en Afrique de l'Est où des enfants, encore une fois, font virevolter, comme font tourner des filets au-dessus de leur tête. Puis il y a tellement de moustiques qu'ils en ramassent des quantités énormes. Puis j'imagine plein de coins du Québec où on pourrait faire la même chose.
Ah oh oui, on peut penser à plusieurs régions.
Ils font des steaks. Ils font des genres de steaks avec. Est-ce que ça serait possible de le faire avec tout?
Je te dirais oui, c'est possible. Là, il va falloir passer au travers de plusieurs barrières psychologiques. Soit trouver des gens qui sont très ouverts d'esprit, ou trouver des gens qui ont vraiment une vengeance intense des moustiques et des mouches noires. Mais effectivement, tous les insectes piqueurs, comme les mouches noires, d'ailleurs, c'est le temps en ce moment, le début juin, les mouches noires, les moustiques, on les trouve tellement en grande quantité. Par contre, c'est petit, donc il faut en récolter beaucoup pour en faire un steak. Mais effectivement, ça pourrait très bien être le cas. Il faudrait essayer, Sam. Tu pourrais, comme je disais tantôt, tout est à explorer, tout est à essayer, puis c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est amusant là-dedans. Tu pourrais essayer, prochaine fois que tu as un petit temps libre, tu pourrais aller dans un boisé où tu sais pertinemment que tu vas te faire harceler par les moustiques, puis collecter une assez grande quantité pour te faire un mini steak, et tu m'en donnerais des nouvelles.
c'est clair. En permaculture, on dit le problème, c'est la solution.
Exact.
Un autre insecte patrimonial là, qui est vraiment présent, c'est la tordeuse des bourgeons d'épinette. Mm-hmm. On parlait tout à l'heure, tu parlais dans les prairies, les nuages de grillons qui étaient comme dans les plaies d'Égypte, là, les plaies d'Égypte où on voit ces genres de sauterelles aller dans les champs puis tout manger. Mais on a la même chose au Québec. Sauf que c'est sur le... Il attaque principalement le sapin, malgré son nom.
Exact.
C'est des nuées, mais c'est des nuages énormes. J'ai jamais été présent en personne, mais j'ai vu des images. Et c'est assez incroyable. Premièrement, si tu pouvais nous expliquer comment, d'une année à une autre, une population passe de endémique à épidémique, épidémie d'insectes. Puis, est-ce qu'on pourrait les manger?
La tordeuse des bourgeons de l'épinette, comme tu dis là, c'est une plaie depuis qu'il y a de l'épinette, je te dirais, d'accord. Ça fait très 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 longtemps qu'elle est là. C'est une espèce indigène. Et puis le gouvernement fédéral dépense des centaines de millions de dollars, sinon des milliards, pour gérer cette espèce-là, parce qu'elle impacte énormément l'industrie forestière, qui est quand même une des industries phares du Canada, si on veut. La tondeuse des bourgeons d'épinettes touche principalement, je te dirais, avant le Québec, là, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et le Québec. Donc, surtout les provinces de l'Est. Et puis, dans l'Ouest, ils ont une plus grande diversité de pestes que nous, à cause des forêts de séquoia, etc. Donc, oui, on peut tirer profit de ces, comme ils disent en anglais, des outbreaks de tordeuses de bourgeons. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une population comme les tordeuses de bourgeons va devenir beaucoup plus abondante d'une année à l'autre? En fait, les scientifiques sont encore en train d'essayer de trouver pourquoi. Mais on le sait carrément, là, bon, ils ont des populations qui ont une ondulation, c'est cyclique. Donc, il y a des années dans certaines régions. Donc, c'est par population. Ils ont toute cartographie, d'ailleurs, leur profil génétique. Les populations du Québec, il y a des échanges génétiques qui se passent entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Mais en général, je te dirais que les populations sont assez emprisonnées dans leurs régions respectives. Et puis, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fonction s'il y a un printemps chaud ou froid, s'il y a une plus grande résurgence, par exemple, de parasitoïdes, des guêpes parasitoïdes, ils vont parasiter plus de chenilles et donc ça va faire une chute des populations de tordeuses des bourgeons, des pinettes. Donc, ça, c'est pour ta première question. Donc, on sait encore pas vraiment pourquoi la tordeuse, pour certaines années, va être énormément abondante, puis d'autres années, va l'être beaucoup moins. Mais on sait que ça suit un certain cycle. Et puis, le Canada continue à dépenser des millions de dollars dans la gestion de ça pour l'industrie forestière. Est-ce qu'on peut les manger? Ce serait une très belle revanche, un peu comme le moustique. À date, la tondeuse de bourgeons d'épinette n'a pas été qualifiée de non-comestible. Et puis, ça rentre un peu dans un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment parce que pour faire la base de... si on veut commencer à parler d'insectes comestibles sauvages, il faut d'abord bâtir une liste des insectes comestibles. Et donc, il faudrait carrément aller chercher une bonne quantité de tordeuses de bourgeons d'épinette, les faire sécher ou les faire bouillir, les faire bouillir et les faire sécher après, les envoyer au MAPAC et faire des analyses justement à cet effet. L'épinette n'est pas toxique, donc je ne pense pas, à mes connaissances, que la tordeuse de bourgeons d'épinette soit toxique à la consommation. Mais ça reste à vérifier. Si elle ne l'est pas, ce que je pense, la tordeuse de bourgeons d'épinette, pour en avoir déjà goûté, j'en avais trouvé quelques-unes, le problème avec la tordeuse des bourgeons, c'est qu'elle fait des espèces de toiles, un peu comme les chenilles à tente. Hein? Sam, tu as déjà vu, probablement les gens qui nous écoutent, ont probablement déjà vu des arbres, des cerisiers sur le bord de la route avec des espèces de gros nids d'araignées. Ben, en fait, bon, c'est des chenilles qu'il y a là-dedans. Donc, la tordeuse fait un peu ça, mais à la grosseur de l'arbre. Okay? Donc, c'est un peu difficile pour la collecte. Il faut brasser l'arbre, vibrer l'arbre et espérer que les tordeuses, les chenilles, vont tomber. Et lorsqu'ils vont tomber, oui, c'est ça. Lorsqu'ils vont tomber, ils vont se laisser pendre par un fil. Parce que les tordeuses font ça en général, ils se laissent pendre par un fil comme ça. Des fois, on se promène en forêt, puis là, oh, on est surpris parce qu'on voit une chenille qui vole dans les airs. Et non, c'est parce qu'il y a un fil de soie lequel elle peut pendre d'une branche qui est peut-être à 15, 20, 30 pieds dans les airs. Et puis, ils se laissent pendre comme ça. Donc, il faudrait brasser assez fort une épinette. Et puis là, on pourrait difficilement imaginer brasser fort une épinette qui a 30 ans d'âge. Donc, ce serait une petite épinette qui serait infestée. Et puis là, on peut penser peut-être récolter quelques individus. Donc, tu vois que c'est pas si simple que ça.
Ouais. Ben, peut-être une autre espèce qui est aussi épidémique, qu'on trouve plus dans les forêts feuillues du sud, c'est la livrée des forêts. Puis exact. Elle, on la voit faire des masses. Comme tu sais, des fois, tu regardes, tu vois le tronc bouger, c'est comme gris, puis là, tu t'approches, puis tu te rends compte que c'est plein de chenilles.
Ça, exact.
Tu penses que ça serait comestible, peut-être même sucré, vu qu'ils mangent de l'érable à sucre?
Ce serait intéressant, hein, s'ils pouvaient être comestibles. La chose qu'il faut savoir avec les chenilles, puis leur comestibilité, si on veut, c'est qu'ils ont les chenilles d'attente, ou les, comme tu dis, les livrées des forêts, là, Malacosoma, Dystria et Americana. Les deux espèces ont beaucoup de poils sur les côtés. Donc, il faudrait trouver un moyen, peut-être industriel, ou au moins un moyen artisanal, d'éliminer ces poils-là. Parce qu'une fois que ces poils sont détachés de l'insecte, ils pourraient, et là je dis bien, ils pourraient avoir certains effets délétères sur notre trachus. On peut penser à l'œsophage ou même les parois parfois sensibles de l'estomac. Donc, ça reste encore à vérifier. Donc, il faudrait capturer une certaine quantité de chenilles, faire des tests. On peut les comparer, par exemple, à des tarentules, les mygales, qui se consomment quand même en grande quantité dans l'Asie, surtout en Thaïlande. Et eux, là-bas, doivent carrément deep fry, donc dans l'huile très, très chaude ou carrément sur le feu, la braise, brûler les poils qui peuvent être urticants chez la plupart des espèces de mygales. On peut penser à la même chose chez la chenille de livrée des forêts. Mais ce qui est le fun, puis c'est qu'il y a plein d'autres espèces de chenilles qui sont comestibles. Puis on peut faire des aménagements pour les élever. Il y a plusieurs éleveurs de papillons au Québec, puis d'ailleurs, on est très chanceux au Québec. Dans le reste des provinces, il n'y a pas autant d'éleveurs qui élèvent des chenilles comme ça pour la vente, pour la collection et tout ça. En fait, on prend des papillons, des femelles, ils pondent des œufs. On met les œufs dans des espèces de ce qu'on appelle des manchons. C'est des grosses poches de tissu. Et on attache ça après certaines branches d'arbres. Et puis, on pourrait avoir notre terre, notre forêt, et s'imaginer plusieurs arbres qui ont ces poches-là et où on élève des chenilles qui sont très potables à la consommation. On pense aux chenilles de Sphinx, qui d'ailleurs sont, et ce que j'ai découvert, les tests de l'année passée, ont relevé que la meilleure manière, selon moi, de les cuire, c'était la bonne braise. Donc, on avait vraiment une enveloppe qui était crispy à l'entour de la chenille et l'intérieur, encore un peu juteux, mais plein, plein, plein de goût. C'est ça qui est le fun avec les chenilles, c'est qu'ils vont goûter ce qu'ils vont manger. D'accord? Donc, s'ils mangent des feuilles qui sont sucrées, comme on pourrait penser à de l'érable à sucre, bien, ils vont avoir quand même... L'érable à sucre, même si, oui, il produit du... Bon, il fait de la sève qui est sucrée, on n'aura pas carrément le sucre dans la chenille. La feuille de l'érable à sucre est assez normale en termes de goût. Je ne sais pas si tu as déjà mâchouillé une feuille d'érable à sucre. La chenille qui va manger de l'érable à sucre va goûter encore l'espèce de chou de Bruxelles, si on veut. Chou de Bruxelles ou le brocoli. La plupart des chenilles vont goûter ça. Si la chenille mange d'un conifère, ben elle va goûter un peu la résine. Et puis ça donne un goût assez intéressant aussi. Si elle mange, par exemple, une espèce d'arbre comme le viorne, comme le sphinx de l'Alizier, j'en ai déjà fait l'élevage, et les chenilles goûtaient florales, comme les feuilles de viorne. Et ça, c'était très, très, très intéressant. Donc, on pourrait penser à la tordeuse des bourgeons d'épinette, mais on pourrait aussi penser à d'autres sortes de chenilles qui sont probablement plus intéressantes, notamment en termes de taille. Les chenilles de sphinx sont souvent grosses comme ça. Ils ont à peu près 2 pouces de longueur. Donc, ça devient un peu plus intéressant en termes de quantité de chair, quantité de la rentabilité par rapport à l'effort qui est mis.
Mm-hmm. Tu sais, quelqu'un qui s'intéresse à l'autonomie alimentaire puis qui, justement, aimerait avoir comme un apport calorifique puis des protéines importantes là, de sa diète, je pense qu'il devra se diriger vers quelque chose comme la culture. Non? Est-ce que c'est possible d'aller cueillir des spécimens en nature, quelques spécimens, et de les reproduire chez soi? Ça prend quel type d'infrastructure? Toi, tu fais ça avec ton entreprise? Est-ce que c'est possible faire à petite échelle?
Je te dirais que ça dépend. Parce qu'on le voit, entre autres, avec les champignons. Je te dirais... C'est comme avec n'importe quel PFNL, PFNL, oui. Il y a certaines espèces qui vont bien s'élever, puis il y en a d'autres qui vont bien mal s'élever, et où tu vas devoir mettre bien trop d'efforts à les élever. Un peu comme mon histoire de manchon, finalement, pour avoir, quand j'étais adolescent, là, fait de l'élevage de ces chenilles-là, ça fait longtemps que je fais ça, j'avais commencé en bac, parce que moi, j'étais en ville, j'habite à Montréal, et donc, j'avais pas d'arbre à aller voir pour mettre une poche de tissu, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui allait la vandaliser, OK? Donc, ce que je faisais, je coupais mes branches dans un parc, je les mettais dans un bac, j'achetais des petits pots de fleuriste, puis j'essayais de mettre mes chenilles dedans. Et qu'est-ce qui arrivait souvent? Ben, la branche se mange vite et elle sèche vite. Les feuilles vont sécher vite. Et donc, à chaque jour ou à chaque deux jours, je devais remplacer les branches. Donc, ça serait une technique qui demanderait beaucoup trop d'efforts pour ce que ça va te donner. Et donc, pour certaines espèces, c'est oui, on peut le faire à l'intérieur. Des espèces qui s'élèvent bien de manière, si on veut, industriel, comme le ténébreur meunier, comme le grillon domestique, comme certaines espèces sauvages aussi qu'on pourrait penser peuvent s'élever de manière assez intéressante à l'intérieur. Mais je te dirais, la majorité vont beaucoup mieux s'élever de manière, je te dirais, comme en termes de permaculture. Donc, on va aller collecter de manière durable ces insectes-là sauvages dans la nature. Mm-hmm.
Puis, une question.
C'est pour ça que c'est encore difficile aujourd'hui.
Encore difficile d'avoir des protocoles de production comme dans le monde des poules ou dans le monde d'autres animaux domestiques où on sait très bien ce qu'ils ont besoin et quel genre de produits ils vont nous faire.
Absolument. Pense. Et les gens qui élèvent des poules de broiler chicken, là, le poulet qui va aller à la rôtisserie Saint-Hubert, ben ce poulet-là, c'est les gens qui l'élèvent, ils ont des cahiers de charges, ils ont des protocoles, ils n'ont pas trop de questions à se poser sur comment ils vont l'élever. Et puis ce poulet-là a été sélectionné à des dizaines d'années, il y a des dizaines et des dizaines d'années. Donc, il est carrément formaté pour être élevé dans des conditions industrielles. Et puis, puis le grillon en ce moment, puis les insectes qui s'élèvent aussi de manière industrielle commencent à l'être. Donc, sélectionner, on fait de la sélection. Malheureusement, il n'y a pas assez d'entreprises qui le font, mais les entreprises qui sont bien établies commencent à sélectionner des souches de ces insectes-là pour leur rentabilité. Donc, on arrive dans à peu près le même modèle, si on veut.
Parce que ça
donc, oui, pour la plupart des insectes comestibles sauvages, ça reste difficile encore.
Mais tu sais, pour la domestication puis la sélection, ça pourrait aller très vite, en fait, la sélection de gros spécimens puis de, tu sais, d'aller chercher des caractéristiques intéressantes pour la consommation humaine, juste parce que les générations d'insectes se font tellement rapidement. C'est pas comme les arbres à noix où il faut attendre 100 ans pour chaque génération. On pourrait, dans les 10 prochaines années, avoir des énormes comestibles morts.
Oui, on peut. Mm-hmm. Puis ça, c'est, je te dirais, la recherche là, dans l'élevage d'insectes, ça, c'est un autre pan de la recherche que j'aime beaucoup étudier, là, qui va très vite, notamment dans les... parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui élèvent des insectes pour la lutte biologique. Donc, il y a des compagnies qui élèvent des chrysopes, des coccinelles, des acariens prédateurs. Et ces insectes-là, puis ces arthropodes-là, ils sont carrément achetés pour être injectés dans les serres, la culture en serre. Et tu sais, Sam, que la culture en serre, dernièrement, depuis le 18 octobre 2018, a augmenté significativement. Donc, il y a beaucoup de recherche qui est faite en termes d'élevage d'insectes, puis de sélection aussi. Mais j'ai épluché la littérature dernièrement et il reste encore énormément à faire sur la sélection des insectes. Puis, comme je disais tantôt, avec le fait d'ouvrir une boîte de Pandore sur la texture puis les goûts des insectes, on est vraiment au balbutiement de la recherche sur la sélection de souches d'insectes, autres que les abeilles domestiques puis les vers à soie, là. Pour la consommation humaine. On est vraiment au... Il n'y a presque rien. Et là, j'amenuise mes mots un peu, là, mais il n'y a presque vraiment pas grand-chose sur la sélection de souches. Et puis ça, on va voir, j'espère qu'on va voir des articles venir, des articles scientifiques dans des revues même très connues sur justement la sélection de souches pour augmenter la rentabilité de certains élevages. Ouais. Peut-être, puis c'est ça qu'on se disait d'ailleurs avec certains spécialistes à Ottawa. Je parlais à quelques amis. Et puis, en fait, on parlait du Ténébrion meunier qui est élevé à grande échelle. Et puis, on regardait à la fois les centaines d'espèces de Ténébrion qui existent au Canada. Et puis, on se disait qu'il y avait probablement quelques espèces qui devraient être testées pour voir s'il n'y aurait pas de la sélection qui pourrait être faite pour justement les amener à un niveau industriel d'élevage. Mm-hmm. Plus intéressant, en fait. Puis développer des protocoles aussi. Il n'y a rien en ce moment.
Mm. Puis, quand on a commencé l'entrevue, tu t'es présenté comme un entomologiste et un entrepreneur. Puis, il y a ces deux parties-là. Il y a cette partie du biologiste, naturaliste qui va dans la nature, s'intéresse aux espèces, s'intéresse aussi à la protection, j'imagine, des écosystèmes qui soutiennent la vie de ces espèces-là. Et il y a le côté domestication, industrie, de l'insecte. Comment? Puis souvent les biologistes sont plus ou moins ouverts à l'intervention humaine de cette manière-là, tu sais, sur nous, les écosystèmes, venir. Comment toi, tu arrives à gérer ces deux aspects-là et est-ce que c'est bien reçu dans la communauté des entomologistes?
Ben, je te dirais, il n'y a pas énormément de puristes dans la communauté des biologistes. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Ben, je te dis, à quel point il y a une communauté de biologistes qui est aussi entrepreneur? C'est une bonne question. Mais je pense qu'au stade où on est en ce moment, on est dans l'hypothétique, premièrement, sur le fait de rentabiliser une compagnie avec quelque chose de biologique, comme les insectes en ce moment. On est vraiment très loin. Et puis, je te dirais même, tu sais, l'entreprise chez Tricic où on élève des insectes, ça reste, on a quand même une niche de marché qui est extrêmement niché, c'est très petit. Écoute, fais juste regarder certaines publications, il y a certaines chaînes de TV qui ont publicisé certaines entrevues qu'ils ont eues avec justement des gens, le nutritionniste urbain par exemple, qui avec Ricardo ont essayé pour la première fois de la poudre de grillon. Et puis, fais juste regarder encore les commentaires qu'il y a des gens en général. Et puis, je te dirais, il n'y en a pas beaucoup qui sont assez ouverts. Je te dirais qu'il y a peut-être 2 personnes sur 10 qui sont ouverts à manger peut-être des insectes. Et là, je dis peut-être. Et puis, il y a peut-être 3 ou 4 personnes sur 10 qui sont peut-être curieux. Le reste, la majorité, ne veulent absolument... Et là, quand je dis absolument, c'est... Ils mettent le mot « arc jamais de la vie ». OK? Fait que je te dirais, ta question sur le côté entrepreneur en entomologie, oui. Mais ça reste qu'on n'est pas encore dans la mercantile. C'est pas encore assez mercantile pour vraiment voir des signes de dollars dans les yeux de certains entomologistes dans ce domaine-là. Je te dirais qu'en général, on est beaucoup plus... on a un message à porter. Puis, on a une cause. Et puis, c'est ça qui est le plus important. Si on parle de l'industrie de l'élevage d'insectes, on pourrait en parler pendant longtemps, je vais faire ça court. Mais, tu vois, avec le projet Tricycle, on utilise des déchets alimentaires. Mais en fait, c'est des résidus alimentaires. On n'utilise pas de la moulée à poule. On n'utilise pas des résidus qui seraient utilisés normalement dans un autre produit que l'humain peut manger. Donc, carrément, on enlève des dizaines et des dizaines de tonnages de résidus alimentaires qui iraient soit en sous-cyclage, donc au compostage, ou carrément au dépotoir. Donc, on en fait quelque chose, c'est du sur-cyclage, fait que c'est carrément un produit qui a plus de valeur. Puis ça, c'est ça qui commence à être le plus intéressant, c'est de l'entrepreneuriat engagé. Fait qu'il y a une différence. Fait que comment je me situe là-dedans en ce moment avec les projets d'éducation, parce que ça, c'est avec Animal Nature, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense. Le salut de notre société va passer par l'éducation. Et puis, tu sais, ça passe aussi par ce que tu fais avec les organismes de collecte durable, de faire connaître des produits et puis de rendre les gens, la population curieuse sur leur terroir, leur patrimoine, le patrimoine québécois. Donc, ça, je pense que ça passe beaucoup par là. Oui, il y a des gens qui vont avoir des signes de dollar, mais je pense que ça dépend vraiment. Et je pense qu'il y a une grande, un grand travail de fond à faire. Sur n'importe quel biologiste qui rentre en, qui fait de l'entrepreneuriat, il doit faire une introspection puis se dire je le fais pour quoi? Je le fais-tu pour moi ou je le fais pour la cause? Ça, c'est important.
Mm-hmm. Puis, as-tu un peu d'intérêt justement sur la formation des insectes comestibles? Puis, si oui, ça ressemble à quoi une formation avec toi?
Oui, bien, écoute, ça fait. My God. Avant 2015, j'ai eu un appel de Gérald Le Gall, qui a l'entreprise Gourmet Sauvage avec sa fille Ariane, Paris. Puis, il me dit j'étais à l'Université Laval, je n'avais même pas fini ma maîtrise. Puis là, il m'appelle et il me dit « Hey, Étienne, j'ai entendu quelque chose. Je t'appelais parce qu'on m'a dit que tu étais la personne avec qui parler. » Je dis « Ah oui, OK. » Il dit « J'aimerais ça partir. » C'est ça qu'il me dit. « Partir une formation sur les insectes comestibles sauvages. » OK, ben c'est sûr que ça me tente. Ça fait des années que j'y pense et puis que je le fais pas. Donc, en plus, avec une belle organisation comme Gourmet Sauvage, on a commencé avec ça. Fait qu'en 2015, on a fait le premier atelier. Et puis là, on a sauté une année l'année passée, je pense. Puis cette année, on n'aura pas le choix de sauter une année. Donc, ça fait quand même 3 éditions qu'on fait. Donc, d'ateliers sur les insectes comestibles sauvages. Et à date, on a toujours eu des groupes. Puis c'est toujours des gens qui sont super intéressants puis super excités à connaître des nouvelles choses. Donc, c'est le meilleur public. Et puis, c'est le fun parce que je peux vraiment être moi-même. Je peux vraiment montrer une larve de donald qui bouge et qui se dandine dans ma main, qui est vraiment vivante. Puis les gens sont « Wow! J'ai le goût d'y goûter! » OK? Ce que... Avec quelqu'un du public, OK? Ça serait arc, puis la personne serait déjà dans son char en train de partir vers Montréal, OK? Ce serait vraiment pas la même chose. Fait que comment ça se... T'as eu une petite idée de comment ça se passe dans ces ateliers-là. Les gens qui viennent, il faut qu'ils soient bien avertis qu'ils vont avoir à la fois de l'authenticité, mais aussi la vraie chose des insectes. Ils vont voir la vraie nature, puis des insectes vivants qu'ils voient, et puis après ça, ils l'ont dans leur assiette. Fait qu'il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt, puis on est là, on chasse dans le champ avec les filets à insectes. On va aller dans un cours d'eau. On va, avec un filet aquatique, ramasser des larves aquatiques, d'insectes aquatiques, de plein d'espèces. On va aller dans le bois où on va décortiquer un tronc d'arbre et on va essayer de trouver des larves d'insectes. Et en groupe, avec différents ingrédients, on va cuisiner dans un tipi. C'est pour chez Gourmet Sauvage. On va cuisiner dans un tipi puis on va faire ça très convivial. Donc, ça nous ramène un peu avec nos ancêtres qui cuisinaient en groupe et qui essayaient des choses, essayaient des textures, des goûts, et puis qu'ils avaient leur propre... Des fois, il y en a qui avaient leur propre idée de recette. Fait que là, on essaie quelque chose. C'est vraiment le fun parce que on voit aussi... Ils voient aussi comment la couleur des insectes change. Parce que souvent, comme les homards, hein, les insectes, ils passent de leur couleur naturelle à un rouge. Parce que la chitine, quand elle bout, elle devient rouge. Elle change de couleur. Donc, des insectes qui sont gris au début et qui sortent rouge-rose. Il y en a d'autres qui sont gris, qui deviennent bleus. Il y en a d'autres qui... c'est assez fascinant. Donc, il y a tout un mélange de... C'est vrai, une expérience expérientielle. C'est une activité expérientielle. Ça veut dire que tu le fais, tu vois, tu le sens parce que tu vas sentir vraiment la terre quand tu vas chasser, quand tu vas décortiquer un bout de bois et tu goûtes. Donc, tous tes sens sont comblés dans cette activité-là. Et puis, ce que j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment que cet atelier-là se dirige et qu'il soit, j'espère, reproduit ailleurs, dans d'autres régions du Québec, mais qu'on aille vraiment chercher quelque chose de gastronomique. Donc, avoir des ateliers plus exploratoires, donc beaucoup plus terrain, puis on pourrait arriver carrément à faire des ateliers où on arrive carrément avec les insectes sauvages. Et là, on fait des tests gustatifs avec des techniques qui sont bien établies pour justement les cuisiner puis les apprêter dans différentes recettes. Donc, c'est là que j'aimerais qu'on aille avec les insectes comestibles sauvages, pour les ateliers en tout cas.
Le potentiel, il est là, c'est clair. Puis, pour finir, c'est où que tu orienterais les gens qui veulent Premièrement, s'initier au monde incroyable des insectes, ensuite des insectes comestibles, puis peut-être te suivre, tes activités, ton entreprise.
Ben, à quel endroit? Je te dirais, je travaille en ce moment sur l'élaboration d'un site web qui va rassembler un peu les projets. Les gens peuvent suivre sur Facebook, sur les communautés, je pense. Puis, je trouve ça toujours intéressant que les gens aussi puissent avoir l'opportunité de partager leurs expériences aussi. Tu sais, Sam, la prochaine fois que tu vas aller dans le bois, c'est sûr, j'espère, en tout cas avec ton œil curieux puis ton exploration, tu connais la nature, tu connais les habitats, tu vas vouloir essayer.
Je vais manger tout ce qui se bouge, mon gars.
Mais c'est ça, c'est un peu parce que tu sais, on travaille à l'élaboration d'un guide, on travaille à l'élaboration de faire finalement connaître les insectes comestibles sauvages. Fait que ça prend l'aide du public, ça prend l'aide de gens qui sont comme les membres de ton organisme, le PFNL, qui sont intéressés à justement essayer ça, qui sont assez curieux, et puis qui nous envoient des choses, puis pourquoi pas co-créer finalement un guide, un manuel de les insectes comestibles sauvages aux Québécois, tu sais. Il y a plein de choses qui sont faisables parce que il y a des milliers d'espèces au Québec. On a environ 23, 25 000 espèces au Québec. Il y a personne qui peut faire ça tout seul. Personne. Donc, les gens vont devoir aller dans leur région. Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Ils vont devoir essayer eux-mêmes les espèces qu'ils ont. Vont devoir tester eux-mêmes. Et c'est sûr qu'il va falloir quelque chose, au moins un protocole pour essayer de collecter les populations de manière durable. Mais au moins, il va falloir, faut jeter les bases d'abord. Il va y avoir une liste d'espèces, j'espère qu'il va être publié bientôt, puis les gens vont pouvoir commencer à explorer eux-mêmes dans la région. Donc, tout de suite, quand tu vas te promener dans le bois, probablement que tu vas être beaucoup plus alerte aux criquets que tu vas voir. Et au lieu de dire, ah, il y a quelque chose qui saute ici, tu vas peut-être plus te dire, qu'est-ce que ça goûte? Tu vas peut-être vouloir découvrir finalement, est-ce que c'est crunchy? Est-ce que c'est plus tendre? Est-ce que, il y a des insectes qui sont pleins de gras, hein? Tu vas voir, ça goûte le beurre. Une expérience qui était fascinante qu'on a faite l'année passée, on a mis un piège lumineux sur le bord à cet endroit de Bellevue. Il y a plein d'éphémères tout le temps là-bas. Et puis, ça s'en vient bientôt, là, la semaine prochaine. Et puis, les femelles éphémères, quand on les prend par les ailes, tout de suite, il y a tout, j'appelle ça le bâton de popsicle. C'est deux tubes d'œufs. C'est du caviar d'éphémères. Et donc, c'est deux tubes d'œufs qui vont sortir de l'abdomen rapidement, qui vont sortir comme ça de la femelle. Et puis, on l'a goûté, ce caviar-là, et ça goûte le beurre de noisette. C'est fascinant. Donc, tout est à faire, tout est à découvrir, puis les gens peuvent carrément essayer des choses chez eux. Évidemment, il faut faire attention. S'il y a des gens qui nous écoutent, il faut faire bouillir au moins 2 minutes. Donc, n'oubliez jamais ça. On ne peut pas manger des insectes crus comme ça en général. Il faut tout le temps les transformer d'une certaine manière. On ne voudrait pas que des gens soient malades à cause de nous, mais vraiment, tout est à faire.
Étienne, c'est tout le temps qu'on avait. J'ai encore plein de questions, mais on gardera ça peut-être pour une autre fois. Puis d'autres collaborations, je pense, entre deux mondes qui ont tout à découvrir. Puis c'est excitant d'être aux portes et être un peu un pionnier. En tout cas, je parle pour toi là, de quelque chose, d'un univers qui est encore tout à découvrir. Merci d'avoir été avec nous.
Ah, ça me fait plaisir, Sam.
À la prochaine, au revoir.
À la prochaine.